Voilà, donc on m'a demandé de vous parler aujourd'hui un peu de robotique. Alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste des robots, bien loin de là, mais ce qui m'intéresse, c'est les relations que nous entretenons avec les robots. Ce n'est pas du tout la même chose, et je m'intéresse évidemment aux machines qui vont être de plus en plus dotées de capacités de simuler des comportements humains. D'abord, des machines capables de parler, hein, vous connaissez tous Siri, Cortana, Google Home, et puis des machines capables, en parlant, de simuler par les intonations certaines émotions, et puis peut-être assez vite, hein, des machines capables, avec un semblant de visage, de simuler des émotions autour, grâce à leurs faux yeux et à leurs fausses bouches. Voilà. Alors je vous ai mis là un assortiment de robots pour que vous sachiez un petit peu de quoi on va parler. Alors peut-être il y en a que vous connaissez les uns ou les autres. En bas ici, sur votre gauche, c'est le robot Paro. C'est un robot qui est utilisé pour permettre à des personnes âgées de calmer leurs angoisses. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, notamment des personnes qui ont des troubles démentiels. Et donc vous voyez, ça ressemble à un bébé phoque, c'est un japonais qui a voulu lui donner cette apparence en évitant le chat ou le chien. Parce qu'une personne pourrait toujours dire « moi j'ai eu un chat, moi j'ai eu un chien, et vraiment votre cochonnerie, j'en veux pas ». Donc un bébé phoque, ça n'évoque aucun souvenir. Le problème de cette machine, c'est que très vite, évidemment, elle prend les microbes, et beaucoup dans d'établissements où ces machines sont achetées ne peuvent pas les utiliser autant qu'ils voudraient, parce qu'il faut les désinfecter très souvent. Donc c'est intéressant de voir que des produits de haute technologie peuvent, l'utilisation de produits de haute technologie peut finalement être limitée par des problèmes assez triviaux. Alors sinon, à droite, là, un petit peu à droite, c'est un robot jaune qui est utilisé au Japon pour faire visiter des expositions à des enfants. Il est grand comme ça, et les enfants adorent suivre le robot. Ils suivent le robot beaucoup mieux qu'ils ne suivraient un moniteur adulte leur faisant visiter l'exposition. À côté, il y en a un que vous connaissez bien, c'est le Nao. Hein, on le voit partout sur Internet. Voilà. Il mesure 80 cm, donc si je le mets sur la table, il est comme ça. Et c'est un robot qui est beaucoup utilisé avec des enfants présentant des troubles autistiques, parce que c'est un robot qu'on peut programmer, et les enfants autistiques eux-mêmes peuvent le programmer. Ici, après à droite, sur votre droite, vous avez un robot qui ressemble à un bébé dinosaure. C'est en effet la copie d'une variété de bébé dinosaure. Et pourquoi est-ce que je vous l'ai mis là? Il est un peu, il est assez élémentaire, hein. Il bouge la tête, il bouge la queue, il fait un peu de bruit, comme un dinosaure, comme on imagine qu'un dinosaure pouvait en faire, et puis on lui donne une feuille à mâchouiller, une feuille en plastique. Voilà. Alors pourquoi je vous l'ai mis? Parce que c'est la première machine pour laquelle les chercheurs ont montré que, bien que ce soit une machine, un humain peut éprouver pour elle beaucoup d'empathie. Alors là, vous le voyez, on a l'impression qu'il lève la tête vers un examinateur, vers un humain, et alors il y a un chercheur allemand, vous trouverez ça sur Internet, qui a fait une petite expérience. Donc d'abord, il cajole le robot, donc quand on voit la vidéo, on trouve ça très sympathique, hein, voilà, comme on caresserait un chien, caresse le robot. Donc le robot, il est programmé pour bouger gentiment et faire des petits bruits. Et puis après, il prend le robot par la queue, et puis il tape la tête comme ça. Ah, je vois une dame qui fonce ses sourcils, voilà. Puis après, il entoure la tête dans un linge, il le reprend dans l'autre sens, dans l'autre sens. Et là, ben, y a beaucoup de gens qui ont dit « mais c'est inhumain ». Voilà, alors que c'est une sorte de peluche, hein, avec un petit peu d'automatisme dedans. Juste au-dessus, vous avez un visage qui peut vous rappeler Einstein, qui est un robot de la firme Hanson. La firme Hanson est plus connue pour fabriquer le robot Sophia. Le robot Sophia, comme vous savez, a acquis la nationalité saoudienne. Et le propre de la firme Hanson, c'est de vouloir nous faire croire que leur robot sont beaucoup plus intelligents que ce qu'ils ne le sont en réalité. Ça, plusieurs chercheurs dans le monde accusent la firme Hanson de mensonges éhontés, et notamment autour du robot Sophia. Vous voyez sur Internet qu'elle est capable de répondre à des questions, d'être choquée par les bêtises qu'on dit sur elle et tout, mais non, pas du tout, du tout, du tout. Elle en est bien incapable. C'est un gros mensonge. Alors juste au-dessus, vous avez deux visages. C'est les visages de Hiroshi Ishiguro. Alors c'est pas lui dans un miroir, c'est lui face à son robot qui lui ressemble, qu'on appelle un géminoïde. Hiroshi Ishiguro est un roboticien japonais qui est le principal roboticien travaillant sur les robots géminoïdes. Les robots géminoïdes, c'est les robots qui sont nos jumeaux. Donc il a fabriqué son géminoïde il y a une quinzaine d'années, et d'ailleurs il envoie parfois son géminoïde à sa place faire des conférences. Le géminoïde n'est pas debout comme moi, il est assis, il y a toute l'informatique dessous la table, et à distance, hein, comme le magicien d'Oz, j'espère que vous avez le magicien d'Oz, M. Hiroshi Ishiguro, depuis son laboratoire à Osaka, dirige partout dans le monde son robot là où il va, donc son robot de loin donne l'apparence exactement de ce que serait M. Hiroshi Ishiguro assis sur une chaise à un bureau en train de bouger, de parler. Alors l'histoire intéressante, c'est qu'il a fait son géminoïde il y a une quinzaine d'années, et que depuis, M. Hiroshi Ishiguro a beaucoup vieilli. Alors que croyez-vous qu'il s'est passé ? M. Hiroshi Ishiguro se fait rajeunir régulièrement pour ressembler à son robot. Et c'est une assez belle histoire, je trouve, c'est une belle fable, parce que l'homme fabrique un robot à son image, puis il se fabrique à l'image de son robot. Ça, s'il ne l'avait pas fait, il faudrait l'inventer, parce que c'est vraiment trop joli. Alors sinon, si vous montez encore au-dessus, ben vous avez un robot japonais, dont j'ai oublié le nom, mais je vous l'ai mis là pour vous montrer quel degré de perfection on peut obtenir aujourd'hui pour un visage. Il faut savoir même que, même de très très près, hein, aujourd'hui, il est possible de fabriquer des peaux artificielles qui imitent parfaitement la vraie. Et puis vous voyez la tête, qui n'est pas la tête du robot qui est à droite, la tête ici où on a enlevé l'apparence du visage et les cheveux, donc c'est ce qu'on voit dessus, voilà, c'est comme un crâne numérique, voilà. C'est pas le bon, mais enfin c'est un modèle semblable. Entre les deux, vous avez ce robot qui a une apparence un peu répulsive. Alors pourquoi je l'ai mis là ? Je l'ai mis là parce que c'est pour vous montrer pourquoi c'est important que les robots aient une apparence sympathique. Parce que c'est vrai, je dis toujours, ben, du robot féminin à droite, en haut, et du robot central, là, dont on ne voit pas le visage, avec lequel des deux aimeriez-vous travailler les langues étrangères ? Ben, évidemment, plutôt avec celui qui est en haut à droite. Voilà. Donc c'est important qu'un robot ait une apparence avenante pour faciliter la communication avec lui. Et puis, vous avez un robot ici qui a un cœur et qui verse une fausse larme. Alors, ça, c'était dans un programme européen. C'est un robot qui accompagnait l'annonce d'un programme européen il y a quelques années. Maintenant, ils l'ont supprimé. Mais c'était l'époque où des chercheurs se vantaient encore de fabriquer des hémorobots. Aujourd'hui, les commerciaux vendront des hémorobots, des robots dotés d'émotions. Mais les chercheurs ont compris qu'il ne faut pas tromper les gens et les prendre pour des ânes. Les robots n'ont pas d'émotions, donc les chercheurs sont revenus sur ce slogan publicitaire et ils sont les premiers maintenant, souvent, enfin sauf ceux de la France, ils sont les premiers à dire que les robots sont des machines à faire semblant, hein, mais rien de plus. Mais il y a une époque où ils colportaient l'illusion de robots pouvant avoir de vraies émotions. Ici à gauche, dans son vêtement vert de majordome, vous avez un robot comme paille, qui se différencie, qui est utilisé pour des personnes âgées aussi, comme le robot Nao, parfois peut-être, mais plutôt dans un accompagnement individuel. Donc vous voyez, il a en fait un écran sur la poitrine, on communique avec lui avec un écran. Puis vous avez au-dessus un autre robot japonais, j'ai oublié son nom. Voilà. Et puis vous avez alors un robot qui peut-être vous êtes étonné de le trouver là. C'est cette espèce de machine à chenilles qui est un robot démineur. Un robot démineur utilisé par l'armée américaine. Il y a un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Démineur, peut-être très bien. Donc c'est un robot utilisé par l'armée américaine. Donc, vous voyez, c'est une espèce de caisse avec deux chenilles et puis un bras articulé, une caméra. Alors pourquoi je l'ai mis là, ce robot ? Ça s'appelle un robot, hein, quand même. Parce que l'armée américaine, il y a quelques années, il y a peut-être moins de 10 ans, s'est aperçu que les soldats ayant en charge les robots des mineurs pouvaient parfois s'attacher à leurs robots au-delà du raisonnable. Et certains soldats en charge de robots des mineurs pouvaient, par exemple, se déprimer quand leur robot était endommagé, ils pouvaient demander que leur robot les honneurs de la guerre quand il était très endommagé, ils pouvaient demander s'il était réparable, même à grand prix, que leur robot soit réparé, quel qu'en soit le prix, parce qu'ils ne voulaient pas avoir un autre robot de la même marque, parfaitement identique. Ils voulaient retrouver le leur, la première chose qu'ils faisaient, c'est de vérifier que le matricule était bien le même. Ils voulaient qu'on leur répare le leur, ils n'en voulaient pas d'autre. Et donc du coup, l'armée américaine s'en est inquiétée parce qu'ils se sont dit, mais si un soldat est capable de traiter un robot comme un camarade de combat, peut-être un soldat va risquer sa vie pour sauver son robot. Et si un soldat menace sa vie pour sauver son robot, vous voyez quand même l'inquiétude de l'armée américaine compte tenu du prix du soldat et du prix de ce robot-là, qui ne vaut pas grand-chose, qui est fabriqué en série et qui est facilement remplacé. Le soldat américain, lui, étant très compliqué à fabriquer et difficilement remplaçable. Donc du coup, l'armée américaine a dit, ben, on va sans doute, les soldats n'ont pas bien compris ce que c'était qu'un robot, donc on va aller leur faire démonter et remonter. On ne va pas se contenter de les leur livrer tout fabriqué dans une caisse. Alors ils ont fait démonter, remonter, puis ils se sont aperçus que ça ne changeait rien. Et les soldats continuaient à s'attacher à leur robot exactement de la même manière. Et donc là, ben, ils ont réfléchi à comment éviter cela. Alors, ils ont pris deux mesures, alors je ne sais pas où ça en est, ce que j'ai vu était un peu ancien. La première mesure, c'était l'idée de donner à leur robot une allure un peu insectoïde, parce que dans notre culture, on n'aime pas trop les insectes, donc si un robot est un peu insectoïde, on court moins le risque de s'y attacher. Et puis la deuxième mesure, c'était de faire en sorte que ces robots soient uniquement des robots des mineurs. Parce qu'on pourrait très bien imaginer que votre robot des mineurs, quand vous êtes avec lui le soir, vous pouvez jouer aux échecs avec lui, vous pouvez jouer ce que vous voulez, voilà, vous pouvez faire des parties de jeux vidéo si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a de l'informatique dedans, il peut faire énormément de choses. Donc l'idée a été que ce robot soit uniquement cantonné aux tâches d'exploration et de traitement des mines. Et donc, pour éviter le plus possible que ce robot devienne un compagnon pour les soldats. Voilà, donc ça vous fait un petit tour d'horizon de variété des robots, grande variété d'usages, et puis des problèmes liés à l'attachement que nous allons pouvoir développer avec eux, et puis des problèmes liés aux mensonges que certains fabricants de machines nous communiquent. Alors, on va maintenant, alors le PowerPoint, on ne va pas tout voir, on va voir une petite partie, mais ce que je vous demande, c'est de poser vos questions au fur et à mesure. Il n'y aura pas une partie de conférence, une partie de questions. Hein, vous posez vos questions quand vous voulez. On finira à peu près dans un peu plus d'une heure, de manière à pouvoir tranquillement, pour ce qui me concerne, regagner la gare. Voilà. Donc si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, vous les posez quand vous voulez. Ou même si tout d'un coup une question vous vient sans aucun rapport avec ce que je suis en train de dire, vous la posez. C'est plus intéressant pour moi, c'est plus intéressant pour vous. Donc s'il n'y a pas de questions, je continue. Alors, qu'est-ce qu'un robot? C'est évidemment la question que tout le monde se pose. Mais vous voyez, j'en ai mis un là, ils ne sont pas tous aussi drôles que ça. Mais l'important, c'est de comprendre que déjà Norbert Wiener, dans les années 1960, il avait très bien défini le robot. Le robot, c'est une machine, mais elle fonctionne un peu comme nous, c'est-à-dire qu'elle a l'équivalent de nos organes des sens, elle a des systèmes qui lui permettent de recueillir des données, des capteurs. Alors, ces capteurs captent beaucoup plus de choses que nous. Ils peuvent capturer, ils peuvent traiter le taux d'humidité, les infrarouges, les ultraviolets, plein de choses que nous, on ne peut pas gérer, la température et tout. Et puis, ces données, elles sont traitées par un programme que les Japonais appellent le cerveau du robot. Et puis, le robot, il va agir sur l'environnement avec des organes moteurs, hein, c'est-à-dire que le robot n'est pas une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est démunie de bras, de jambes et de possibilités d'intervenir. L'intelligence artificielle, elle peut vous répondre via un écran, mais elle ne peut pas interagir sur l'environnement physique. Donc déjà, les choses se compliquent parce que vous avez des chercheurs qui disent ben, il faut que le robot, pour mériter le nom de robot, agisse sur l'environnement physique. Oui, allez-y, dites-moi. Ah, pardon, excusez-moi. Donc certains chercheurs disent pour que le robot puisse être qualifié de robot, il faut qu'il agisse sur l'environnement physique. Il y a une deuxième catégorie de chercheurs qui disent les traders, les robots traders, les robots qui agissent sur l'environnement bancaire des usagers sont également des robots, bien qu'ils n'agissent pas sur l'environnement physique, mais sur les données numériques qui correspondent aux sommes déposées dans les banques, aux flux financiers. Et vous avez des chercheurs qui disent, mais on peut aussi agréger à la catégorie robots, les robots qui agissent sur l'environnement émotionnel, et notamment le fameux robot Paro, vous avez vu tout à l'heure, quand on le met sur les genoux d'une personne démentielle, la personne se calme, le robot ne fait rien d'autre que calmer cette personne, elle agit sur l'environnement émotionnel d'un utilisateur, donc certains chercheurs disent, ça n'est pas un robot, d'autres disent, c'est un robot. Donc ayez bien à l'esprit que la définition du robot est quelque chose qui n'est pas encore vraiment fixé, mais avec le temps, ça va se fixer. Voilà. Mais ce qui est important que vous compreniez, c'est que les concepts se définissent à l'usage. Il n'y a pas un jour quelqu'un qui dit « voilà ce que ça veut dire ». Alors probablement l'Académie, dans quelques années, va décider d'une définition consensuelle. Aujourd'hui, ça flotte encore un peu. Alors, à ce que je vous ai dit, hein, les capteurs, le cerveau, les effecteurs, vont s'ajouter beaucoup de choses. Les capacités d'apprentissage, parce qu'on n'est plus à l'époque de Merleau-Ménard, hein, ça a beaucoup changé. Donc les capacités d'apprentissage, par renforcement, par imitation, par apprentissage profond, par connexion avec d'autres robots, c'est très simple, renforcement, chaque fois que le robot fait quelque chose qui est attendu de lui, il est récompensé. Il est récompensé, pas avec un bonbon ou une barre chocolatée, mais il est récompensé simplement par une commande qui lui permet de comprendre qu'il a effectué correctement sa tâche. Donc la commande, ça peut être appuyer sur un bouton. Pour le robot Pepper, je ne vous ai pas montré, mais le robot Pepper ressemble un peu au Nao, hein. Il y en a souvent dans des gares maintenant, dans des musées. Le robot Pepper, il est renforcé par la phrase « c'est bien ». Mais si vous voulez renforcer le robot Pepper, parce que vous êtes très content de lui en lui disant « c'est très très bien », il ne comprendra pas. Si vous dites « c'est parfait, c'est génial », il ne comprendra pas. C'est très bien, c'est tout. Voilà. C'est bien, voilà. Mais tel que la commande a été entrée, on ne peut pas s'en éloigner. Apprentissage par imitation, ça veut dire que si vous décidez d'apprendre, par exemple, à votre robot à faire la tarte aux pommes, vous le mettez en face de vous, mettez les ingrédients entre lui et vous, faites la tarte aux pommes, il essaye de vous imiter, il n'y arrive pas. Mais il y a quand même l'idée qu'il devrait pouvoir vous imiter correctement un jour. Vous vous désespérez un peu, vous dites ça ira mieux la prochaine fois, et puis quelques minutes après, il a fait encore mieux que vous. Ben pourquoi ? Parce que le robot, ça ne se fait pas encore. Mais l'idée, c'est qu'il soit en permanence connecté à Internet et qu'il aille chercher tous les apprentissages effectués par d'autres robots du même modèle et de la même marque. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage accéléré. Imaginez que dans une classe d'élèves, ou même dans le monde entier, il suffirait qu'un élève apprenne l'addition pour que tous les élèves du monde sachent l'addition. Ben ça, c'est l'apprentissage accéléré qui fait évidemment très peur parce que ça peut permettre au robot d'acquérir une somme de connaissances colossales en très très peu de temps. Et puis vous avez l'apprentissage profond, dont vous savez sans doute qu'on ne sait pas comment il fonctionne, mais il fonctionne. Donc il y en a qui s'en réjouissent sur des petites choses, apprendre à identifier un chat, un chien, un feu rouge, une voiture, c'est très très bien. À partir de là, on peut penser que l'apprentissage profond pourrait permettre à une machine d'apprendre beaucoup plus de choses. Bon, personne n'a trop envie de s'engager dans ce domaine. Pour le moment, l'apprentissage profond est réservé pour des tâches d'apprentissage très limitées, notamment pour les véhicules automobiles, pour qu'ils sachent identifier un feu rouge, un feu vert, un vieillard qui marche doucement, un enfant qui court, une bicyclette, etc. Donc on rajoute des capacités d'apprentissage, vous voyez déjà il y en a beaucoup, c'est assez varié. On va rajouter ensuite de l'empathie artificielle. C'est quoi l'empathie artificielle? Ça va être la capacité du robot d'identifier nos émotions. Alors évidemment il ne fait pas comme nous, mais il les identifie en les comparant à une base de données. C'est-à-dire que le robot a emmagasiné un grand nombre d'images de visages, avec la bouche en bas, avec les yeux qui tombent sur les côtés, avec les yeux rieurs, avec la bouche en haut, voilà, avec des rides autour de la bouche, pas de rides, voilà, autour des yeux, voilà, des rides d'expression. Et donc du coup, le robot il compare votre mimique à sa base de données et il arrive à peu près à repérer les mimiques élémentaires. Alors il ne faut pas trop lui en demander hein, encore, il ne repère pas les mimiques fines. Il repère les mimiques élémentaires. Ce qui pose d'ailleurs un gros problème, c'est que si on devait être amené à interagir très souvent avec des robots reconnaissant des mimiques élémentaires, il faudrait que nous caricaturions nos mimiques pour que nos robots les comprennent, et à force de caricaturer nos mimiques, peut-être qu'on perdrait la compétence des mimiques subtiles. Donc ça, c'est des choses compliquées, mais on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de progrès scientifique dénué de risques. Donc, bon, ce qu'on essaye de faire, c'est de les identifier. Et puis, après les capacités d'apprentissage, après l'empathie artificielle, le robot peut être doté d'émotions artificielles. Et là, ça veut dire que son visage muni de 160 petits moteurs électriques, par exemple, va pouvoir imiter une expression de plaisir, de tristesse, d'amertume, de colère. Et vous voyez le robot en bas, qui est le robot d'Hiroshi Ishiguro, a cette compétence Et vous pouvez voir un film dans lequel sa compétence est mise en action. Il y a même une pièce de théâtre. Ça s'appelle Sayonara, ça veut dire au revoir en japonais. Et donc, voyez Sayonara, vous verrez comment... Sayonara, c'est un dialogue entre une femme vieillissante et son robot, que son papa et sa maman lui ont offert quand elle était petite pour lui tenir compagnie. Et ce robot, c'est celui-ci, c'est le robot d'Hiroshi Ishiguro. Et donc, c'est le dialogue entre l'humain et le robot pendant une heure et demie. Donc, il y a un film, Sayonara, mais il y avait une pièce de théâtre à l'origine. Pas de questions ? Alors, des interactions, vous voyez, intuitives, empathiques, effectivement, qui vont permettre de communiquer plus facilement avec les robots. Alors, quelle relation on va avoir avec ces machines ? Alors, il y a un chercheur, toujours, vous voyez, dans les années 60, hein, c'est loin les années 60, mais il y a quand même des jalons très importants qui ont été posés, la définition du robot par Norbert Wiener, et puis pour ce qui concerne notre relation aux machines, le travail de Joseph Weizenbaum. Vous allez nous entendre parler. Weizenbaum avait construit une machine avec ses collègues, une machine construite comme un thérapeute rogerien. Alors à l'époque, cette machine, on tapait ses questions et ses réponses, l'utilisateur tapait ses questions et ses réponses sur un clavier, et la machine répondait sur un écran. Qu'est-ce que ça veut dire que cette machine a été programmée à fonctionner comme un thérapeute rogerien ? Ça veut dire que c'est une machine qui ne répondait à aucune question, en ce sens-là elle était totalement conforme au principe d'un thérapeute, et elle reformulait toutes les questions de manière assez chaleureuse. Bon, c'était écrit, mais enfin c'était un vocabulaire qui se voulait assez empreint de sympathie pour les problèmes de la personne qui interagissait. Vous voyez, par exemple, c'est mon petit ami qui m'a dit de te parler, je trouve ça sur Internet, vous pouvez vous venir me parler. Voilà. Et donc, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Je suis triste, ah bon, vous êtes triste, point d'interrogation. Je me demande pourquoi je suis là. Ah, mais alors pourquoi êtes-vous venu, point d'interrogation. Voilà. Donc, toujours des questions, des questions, des questions. Alors, jusque-là, il n'y a pas de problème, hein, la machine fonctionne comme ça. Et Joseph Weizenbaum s'aperçoit que un certain nombre de ses collègues ou d'étudiants qui ont programmé la machine passent beaucoup de temps avec elle. Donc il leur dit, mais vous savez bien comment elle fonctionne, elle ne va jamais vous donner de réponse à rien, elle ne fait que reformuler, reformuler, reformuler. Et Weizenbaum est très étonné parce que des collègues lui disent, oui, on sait bien, elle est programmée comme ça, mais on ne peut pas s'empêcher de penser, enfin chacun parle pour lui, je ne peux pas m'empêcher de penser, j'ai quand même l'impression qu'elle me comprend vraiment. Et donc Weizenbaum a identifié cette tendance de l'être humain à savoir qu'une machine n'est qu'une machine, et pourtant à agir avec elle comme si elle était capable de beaucoup plus. C'est ce qui est arrivé d'une certaine façon, c'est ce qui arrive d'une certaine façon pour les soldats en charge des robots des mineurs. Je sais bien que c'est un robot des mineurs qui ne vaut pas grand-chose, qui n'a pas beaucoup d'informatique et qui n'est capable de rien d'autre que de dénicher les mines et les désamorcer, mais je ne peux pas m'empêcher de le considérer comme un camarade de travail et au combat de risquer ma vie pour lui. Je sais bien, mais quand même, hein, fameuse formule d'Octave Manoni. Et Weizenbaum a eu une formule qu'il faudrait écrire au fronton de tous les laboratoires de recherche et de tous les établissements dans lesquels on parle de robots. Weizenbaum a dit, je n'aurais jamais cru qu'une machine aussi simple puisse provoquer de tels délires chez des gens normaux. Je n'aurais jamais cru qu'une machine aussi simple puisse provoquer de tels délires chez des gens normaux. Et vous voyez, si la machine de Weizenbaum a été capable de provoquer de tels délires chez des gens normaux, eh bien, il faut s'attendre à ce que les robots qui vont arriver, même Siri, Elisa, etc., provoquent des délires bien plus importants chez des gens tout aussi normaux que ceux auxquels avait affaire Weizenbaum. Donc il a appelé ça l'effet Elisa, et on l'appelle maintenant la dissonance cognitive. C'est « je sais bien, mais quand même », c'est-à-dire que intellectuellement, je sais parfaitement que les robots ne font qu'imiter, qui n'ont pas beaucoup de capacités, qui sont très sommaires, mais de notre côté, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils auraient des compétences bien plus importantes que celles que je sais qu'ils ont. Alors c'est un problème extrêmement important parce que vous avez dû entendre dire, depuis moins d'une année, par beaucoup de chercheurs, que la fameuse intelligence artificielle forte qui serait capable de se comporter comme un humain, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain, c'est même peut-être pas pour après-demain, c'est dans très 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 longtemps. Donc ça c'est bien qu'ils le disent. Et donc les chercheurs aujourd'hui tentent à nous rassurer en nous disant, mais vous savez, soyez tranquilles, ne croyez pas les romans de science-fiction, ne croyez pas les films de science-fiction, ne croyez pas les séries de télé américaines, l'intelligence artificielle forte capable d'imiter l'humain, c'est dans un siècle, dans deux siècles, dans trois siècles. Et les chercheurs ajoutent, par contre, ce que nous travaillons, c'est l'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire une intelligence capable de simuler des capacités élémentaires de l'homme. Ça, c'est ce que disent les roboticiens. Mais comprenez bien que, d'un point de vue psychologique, ça n'a rien de rassurant, puisque ce que nous montre l'effet ELISA, c'est que même une machine dotée de très peu d'intelligence artificielle faible est capable de faire croire à des humains qu'elle est très intelligente et qu'elle a une intelligence artificielle forte. C'est-à-dire que le point de vue des roboticiens et le point de vue des psychologues ne se recoupent absolument pas. Les roboticiens parlent de la réalité des machines et ils ont raison de nous la rappeler sans arrêt, comme l'armée américaine a rappelé aux soldats en charge de robots des mineurs que c'était que des machines toutes bêtes à déminer. Mais en même temps, il faut avoir à l'esprit que ce n'est pas parce qu'ils nous disent cela qu'il faut perdre de vue que beaucoup d'entre nous attribueront à ces machines des pouvoirs bien plus grands que ceux qu'elles ont en réalité. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter en tant que psychologue et psychiatre de réfléchir à ces questions sous prétexte que l'intelligence forte n'est pas pour demain ni pour après-demain. Il faut y réfléchir parce que même faible, elle va être capable de nous faire prendre des vessies pour des longs termes. Alors, il y a eu des études qui ont montré que cette intelligence artificielle faible, elle va être d'autant plus efficace qu'elle va s'incarner dans un corps. Ce qui est normal, nous avons un corps, nous avons plus tendance à faire confiance à un autre corps, même si c'est un corps de robot, qu'à une machine qui parle. Donc il y a eu des études, soit une intelligence artificielle donne des consignes, vous savez, c'est le film Her, je vous conseille vraiment de le voir, c'est remarquable. C'est une intelligence artificielle qui communique à travers un petit boîtier comme votre téléphone mobile. Alors, deuxième éventualité, donc c'est l'image du bas, hein, voilà, ici, vous voyez. Et en plus, elle regarde tout et elle commente, elle peut commenter l'environnement. Machine prévue pour dans une dizaine d'années, de manière réaliste. Donc, il faut que vous voyez alors, le film. Donc, deuxième éventualité, un avatar présent sur un écran, alors je vous l'ai mis au-dessus, j'en ai pris un peu rigolo, voilà, vous reconnaissez tous. Donc, c'est le même discours, simplement, au lieu d'être simplement une voix, c'est un petit bonhomme sur un écran. Ça peut être un hologramme, au Japon, il y a un hologramme déjà sous cloche qui a cette fonction-là. Et puis, ça peut être un robot physique, vous voyez un AO, puis vous voyez comme le photographe est menteur. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le NAO mesure 1,5 m, 1,60 m, qui est presque aussi grand, une tête aussi grande que celle de la dame avec la caïpa. En fait, c'est pas vrai. Vous lui mettez les pieds ici, la tête là, et la tête est là. Mais bon, ici, il y a l'illusion que le NAO serait presque de taille humaine. Et donc, des recherches ont montré que si la même consigne est donnée simplement par la voix, comme avec un robot conversationnel, par un avatar présent sur un écran, ça va être des Digital Companions. Digital Companions que vous allez voir apparaître sur vos smartphones en avril, mai, juin, vous aurez les premiers. Soit un robot physique de type humanoïde, les études ont montré que les gens obéissent beaucoup plus facilement les avatars présents sur un écran que l'intelligence artificielle et le robot physique que l'avatar présent sur un écran. Or aujourd'hui, on en est seulement au tout début de la voix, mais après, ou de l'avatar, mais très vite, on aura la présence physique. Vous voyez, les conseils sont mieux suivis, notamment dans le domaine de l'alimentation et des activités physiques. Bon, alors ça, voilà, ça c'est très bien, alors, je ne vous montre pas en animé, mais je vous conseille d'aller le voir. Vous tapez sur Internet, je ne sais pas s'il y a du réseau ici, mais il ne doit pas y en avoir, parce que personne n'est sur son téléphone mobile. Le seul remède à l'ennui semble être le sommeil, donc pour certains, donc j'en déduis qu'il n'y a pas de réseau. Donc si vous aviez du réseau, ce qui serait bien, vous iriez voir tout de suite cette vidéo. Je ne la mets pas en vidéo parce que souvent on n'y arrive pas pour les transmissions, et voilà, donc je ne mets que du fixe. Donc cette image, c'est une image tirée d'un petit film qui dure quelques minutes. Hein. Et donc dans ce petit film, on voit ce robot qui s'appelle Atlas et qui est fabriqué par Boston Dynamics. Boston Dynamics était l'entreprise financée par la DARPA. Donc l'entreprise de DARPA, le service de recherche de l'armée américaine, donc la Boston Dynamics avait promis à l'armée américaine de fabriquer un robot soldat. Et puis l'armée américaine a mis des sous, encore des sous. Puis le fameux soldat tardant à venir, Boston Dynamics l'a revendu et l'a revendu à Google. Donc cette vidéo, elle est filmée dans le cadre de Boston Dynamics appartenant à Google. Donc vous voyez cette machine qui n'est pas du tout, qui n'a pas une apparence humaine du tout, mais qui est quand même un peu plus grande qu'un homme quand même. Eh bien d'abord, on la voit marcher dans la neige. Et on la voit marcher, elle fait quelques pas, donc elle s'enfonce dans la neige, mais elle ne perd pas son équilibre. Donc on la voit de profil, on la voit de face, on la voit de dos, on la voit d'un autre profil. Et vous ne savez jamais si cette machine ne s'est pas cassée la figure dans la demi-seconde qui suit le moment où l'image s'arrête. Mais comme vous la voyez marcher tout le temps, pendant une minute, vous avez l'impression qu'elle surmonte tous les obstacles. Mais peut-être c'est complètement faux, même probablement c'est complètement faux. Probablement, à chaque fois qu'elle commence à déséquilibrer, qu'elle se casse la figure, on a coupé la séquence, du coup, vous avez l'impression qu'elle marche très bien. C'est ça l'important, c'est que vous ayez l'impression qu'elle marche très bien, et vous vous dites, machine extraordinaire quand même, moi dans la neige comme ça, vous savez, des fois on s'enfonce, pouf, d'un mètre, moi je tomberai, elle ne tombe pas. Alors ensuite, on la voit porter des caisses, bon, c'est très bien, elle met des caisses d'une étagère à gauche ou d'une étagère à droite. Et puis après, on voit ce chercheur-là, Barbichu, un peu méphistophélique, il pourrait être habillé tout en rouge, vous voyez, et avoir une fourche à la main, mais ce n'est pas une fourche qu'il a, c'est une espèce de rouleau d'entreprise de papeterie, et donc il essaye de faire tomber le robot, donc il le pousse d'abord devant, le robot est déséquilibré mais il ne tombe pas, donc dans l'assistance on pousse des hauts idéaux parce que c'est extraordinaire, et après le chercheur va le traître, le pousser par derrière et faire tomber le robot. À ce moment-là, le robot se relève et tout le monde est stupéfait devant la facilité avec laquelle le robot se relève de cette chute. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans les jours qui ont suivi, il y a eu beaucoup de messages d'internautes sur Internet disant « Arrêtez de faire chier les robots, laissez les robots travailler tranquille. » Et certains disant même « C'est dommage que le chercheur ait beaucoup de chance que le robot ne lui mette pas son poing dans la figure. Voilà. » Et donc beaucoup de gens ont dit « Mais ces robots, il ne faut pas les embêter. » Donc un grand mouvement, vous voyez, de sympathie pour le robot. Et un mouvement de sympathie tellement fort que Google a prétexté de ce mouvement de sympathie. Alors c'est la vraie raison peut être ailleurs. En tout cas, Google, qui possédait Boston Dynamics, s'est appuyé sur ce mouvement de sympathie des internautes pour dire « Google ne veut pas fabriquer des produits qui risquent d'angoisser les usagers. » Donc Google l'a revendu, le plus offrant, c'est SoftBank Dynamics, SoftBank qui a donc racheté SoftBank Robotics, Boston Dynamics, que possédait Google. SoftBank Robotics est une entreprise japonaise qui avait déjà racheté le robot Naro et qui fabrique le robot Pepper. Voilà. Pour la petite histoire. Et donc, pourquoi je mens ça? C'est simplement pour que vous voyez le mouvement extraordinaire de sympathie qu'on peut avoir pour une machine. Il y a eu d'autres exemples avec le robot, le petit robot qui faisait du stop. Voilà. Donc ça, c'est une expérience au Japon. Alors, on n'est pas au Japon, mais enfin, en tout cas... Vous voyez, là, le truc avant, c'est le Japon, c'est le fait de mettre un robot à côté du médecin. C'est-à-dire les patients sont rassurés par la présence du robot. Quand le robot sourit et hoche la tête en synchronisant sur le médecin, plus de gens encore sont rassurés. Quand le robot sourit et hoche la tête, quand le patient parle, la moitié des patients sont rassurés. Vous voyez un robot qui donne l'impression d'écouter vraiment très attentivement ce que vous dites, d'être très attentif. Les gens sont rassurés. Et là, ben là, ça n'est pas particulier au Japon. Un humain qui parle à un robot, c'est Hiroshi Ishiguro qui a fait ça, mais c'est valable pour tout le monde. Un humain qui parle à un robot passe autant de temps à le regarder dans les yeux qu'à regarder un humain dans les yeux. Imaginez un robot, ben, comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, avec simplement des yeux peints à la Mickey. Et ben, quand les humains parlent au robot, parce que le robot s'adresse à eux, les humains parlent au robot, et ben les humains regardent le robot dans les yeux. Alors qu'ils pourraient aussi bien regarder les pieds du robot ou les épaules du robot, puisque nous regardons les yeux d'un humain parce que nous cherchons une intention. Mais nous n'allons pas trouver une intention dans les yeux d'un robot. Pourtant, nous regardons les yeux d'un robot. Et vous voyez, l'imagerie cérébrale montre que les émotions manifestées par l'humain, manifestées par un humain ou par un robot, sont perçues de la même manière par l'observateur. Voilà. Alors, comment considérer les robots? Comment considérer l'homme? Ben, pour les robots, les roboticiens ont des fonctions, et substitutives, augmentatrices, complémentaires, voilà. si vous n'avez pas de questions, on ne va pas aller plus là. Pour les utilisateurs, ben, ce qui est important, c'est le point de vue émotionnel. C'est pour ça qu'il faut absolument, partout, dans les universités, en psychologie, en philosophie, créer des filières d'études des relations hommes-machines. Comme je le dis toujours, le XXe siècle a été le siècle qui a inventé la psychologie des relations homme à homme, et puis également la psychologie des groupes humains. Et bien, le XXIe siècle sera le siècle de l'invention de la psychologie de l'homme confronté à des machines. C'est pour ça que, alors c'est trop tard pour vous inscrire, mais peut-être l'an prochain, parce qu'il est complet cette année, c'est pour ça qu'on a créé avec Frédéric Tordeau un diplôme universitaire à Paris qui s'appelle un DU de cyberpsychologie. Hein, et ce DU de cyberpsychologie, dirigé par Rémi Potier, est un DU qui est destiné justement à familiariser les étudiants ou les psychologues déjà formés à tout ce domaine de la psychologie homme-machine. Et pour ceux qui n'ont pas la chance, bon, c'est au DU puisqu'il est complet, donc c'est, tout à l'heure on a eu la gentillesse de vous rappeler que j'avais écrit un livre là-dessus, qui s'appelle « Petit traité de cyberpsychologie », qui est paru aux éditions Le Pommier, et qui traite justement de tous les grands concepts de psychologie, pour voir comment ces concepts doivent être repensés à partir du moment où il va falloir que nous ayons en psychologie des concepts qui s'appliquent non seulement aux relations des humains avec les humains, mais aussi aux relations des humains avec les machines. Donc pour les utilisateurs, le point de vue qui prime, c'est le point de vue émotionnel. Il existe un seul modèle de relation de l'homme à son environnement. C'est une interaction basée sur la projection de soi. Alors c'est pour ça que je vous ai mis un arbre, vous l'avez reconnu, on l'appelle un saule pleureur. On l'appelle un saule pleureur parce que quand on le regarde, on a l'impression qu'il est triste et qu'il pleure. Donc l'être humain, comme ça, a, nous, avec son environnement, une relation dans laquelle il projette constamment ses émotions, ses pensées. Et ce n'est pas un fonctionnement problématique, c'est au contraire le fonctionnement qui a permis à l'humain d'apprivoiser son environnement. Si les premiers hommes n'avaient pas su reconnaître sur le visage des loups s'ils étaient curieux ou s'ils étaient agressifs, et bien l'humain n'aurait jamais réussi à apprivoiser certains loups et à en tuer d'autres qui pouvaient s'avérer menaçants. C'est bien parce que l'être humain a projeté ses catégories mentales sur les animaux qu'il a pu apprivoiser les animaux, c'est parce qu'il a projeté ses catégories mentales sur l'environnement qu'il a transformé l'environnement. Les machines, eh bien sûr, c'est ce que je vous dis dans le petit traité de psychologie. Je montre qu'il y a au moins 10 domaines qui sont transformés du domaine de la psychologie traditionnelle. Je voulais dire dans quelques minutes, comme l'image, ça sera plus facile à suivre. Puis pour moi aussi, je risque d'en oublier sur les 10. Mais on va y arriver dans quelques minutes. Donc, cette tendance de l'être humain à projeter sur l'environnement ses catégories mentales, eh bien, c'est même quelque chose que l'on trouve, vous voyez, pour des figures abstraites, puisque vous avez ici une petite vidéo, la même chose, je n'ai pas la vidéo pour vous la montrer, mais vous allez sur Internet, vous la trouvez tout de suite, hein, vous tapez Fritz Seider et Marianne Simmel, et vous voyez, c'est un rectangle avec une petite porte qui s'ouvre et qui se ferme, un petit triangle et un petit rond qui se déplacent dans tous les sens un peu au hasard, un gros triangle qui se déplace aussi dans tous les sens au hasard, et la plupart des spectateurs auxquels on demande « qu'est-ce que vous avez vu ?» disent « on a vu une histoire d'amour, le petit rond et le petit triangle veulent être tranquilles, mais le gros triangle n'arrête pas de les embêter, donc le petit rond et le petit triangle doivent être désespérés de ne pas avoir la solitude qu'ils cherchent. Voilà. » Donc ça veut dire que même sur des figures géométriques bougeant au hasard, l'être humain ne peut pas s'empêcher de projeter ce qui le préoccupe le plus, ce qui le préoccupe le plus au monde, à savoir une histoire d'amour. L'anthropomorphisme est énormément exploité par le design. Hein, voilà, vous avez Ettore Sottsass, hein, bien sûr, avec ici une étagère particulièrement anthropomorphisée. Et puis la petite voiture, dont vous reconnaissez les yeux tellement enfantins, hein, qui ont été à l'origine de son grand succès, semble-t-il. Et cet anthropomorphisme, il ne faut pas le confondre avec de l'animisme. L'anthropomorphisme, c'est le fait de projeter sur les objets des pensées, des émotions, des sentiments, mais sans pour autant croire que l'objet ait en réalité les qualités que nous lui prêtons le temps où nous interagissons avec lui. Par exemple, si vous voulez mettre en route votre voiture parce qu'un matin, parce que vous avez un rendez-vous très important et que votre voiture ne démarre pas, il est probable que beaucoup d'entre vous, moi aussi d'ailleurs, on va pester. On va dire « Ah non, pas ce matin, c'est pas possible, tu peux pas me faire ça ». Peut-être on va secouer un peu le volant de rage. Mais en même temps, on n'attend pas que notre voiture s'excuse. Parce qu'on sait bien que c'est pas parce qu'on lui parle qu'elle va nous répondre. Donc ça, c'est de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est le fait de s'adresser à l'environnement avec des catégories humaines parce que nous n'avons pas d'autres repères que nos catégories humaines. Nous sommes des humains, nous ne pouvons interagir avec l'environnement que comme des humains s'adressant à d'autres humains. En revanche, nous avons quand même un cerveau, un lobe frontal, qui nous rappelle que l'environnement n'étant pas humain, ne va pas nous répondre comme un humain. Alors, l'animisme, c'est quoi ? Ben, l'animisme, c'est au moment où on va basculer de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va non seulement s'adresser à l'environnement non humain comme un humain, mais on va croire que cet environnement non humain ait des qualités propres à l'humain. Alors je vous ai mis ici un robot aspirateur, vous avez dû le reconnaître, parce que je vous invite tous à faire l'expérience. Si vous en avez un, vous allez sans doute vous reconnaître dans ce que je vais dire. Si vous n'en avez pas, dépêchez-vous de trouver des amis qui en ont un, allez chez eux pour voir comment il fonctionne. Alors vous regardez fonctionner le robot aspirateur pendant 2 minutes, et après, vous vous efforcez de décrire ce que vous avez vu. Est-ce que vous croyez que vous allez dire « Il a tourné sur lui-même de 35 degrés, et puis il a avancé 10 cm dans un axe perpendiculaire à son trajet premier, et puis il a à nouveau tourné sur lui-même de 10 degrés, et il a fait 50 cm. » Ça serait le discours logique, le discours rationnel. Non, vous allez dire quand on l'a mis en route, il a semblé hésiter, et puis il est allé tout droit à un endroit où il devait y avoir de la poussière, parce que là il est resté un moment, et puis, après il s'est immobilisé, peut-être il a réfléchi, et puis après il est allé à un autre endroit où semble-t-il il y avait de la poussière aussi, parce qu'il est resté un long moment, il l'avait trouvé. Voilà. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas vous empêcher de parler d'une machine en lui attribuant des compétences humaines. Ça, c'est l'anthropomorphisme toujours. Mais le problème, c'est qu'à un certain moment, il y a toujours un risque de basculement, c'est-à-dire que comme vous risquez de développer des comportements vis-à-vis de votre machine, qui sont des comportements vis-à-vis d'un humain. Et donc, je vous ai parlé tout à l'heure des robots des mineurs, des soldats américains, mais vous avez aussi la possibilité qu'une personne âgée ayant chez elle un robot qui lui rend grand service dans tous les domaines, notamment qui lui permet de choisir ses médicaments, de choisir l'heure de ses médicaments, il y a toujours le risque que un tel robot suscite un attachement de la personne âgée au point où la personne âgée pourrait peut-être se précipiter si elle voit son robot vaciller, risquer de tomber et se casser une partie du corps, alors que si le robot tombe, se brûle sur une plaque chauffante, il est sous garantie, il suffit de remplacer la pièce. Donc, le basculement dans l'animisme, ça peut être de penser que l'objet aurait en réalité les compétences qu'on lui prête, mais plus souvent, c'est le fait de se comporter vis-à-vis de l'objet comme s'il avait les compétences qu'on lui prête, tout en sachant qu'il ne les a pas. Ça, il faut bien comprendre à ceux qui... Parce que traditionnellement, quand on pense à l'animisme, on pense à l'enfant, et on pense à l'enfant qui croit que les nuages bougeraient tout seuls et que les voitures seraient dotées de la capacité de rouler toutes seules aussi. Non, l'animisme chez l'adulte, le plus souvent, c'est pas croire que l'objet aurait en réalité les capacités qu'on lui prête, c'est se comporter avec l'objet, comme si l'objet avait en réalité les capacités qu'on lui prête. C'est exactement ce qui s'est passé pour les soldats américains avec les robots des mineurs. Vous croyez vraiment que cette machine souffre ? Bien sûr que non. Alors pourquoi vous voulez la protéger ? C'est plus fort que moi. Et ça, c'est le basculement dans l'animisme. Alors ces projections anthropomorphes et risques d'animisme ont considérablement augmenté avec les robots. Pourquoi ? Parce que la première chose que vont nous dire ces machines, c'est déjà un peu ce qu'elles vous disent d'ailleurs, c'est qu'elles ont besoin de nous pour évoluer. Et là, la machine se place tout à fait dans la logique de l'enfant. C'est une manière de nous invités à les apprivoiser, c'est-à-dire que la machine, comme un enfant, nous invite à nous occuper d'elle pour qu'ensuite elle puisse s'occuper de nous. Voilà, occupe-toi bien de moi, c'est-à-dire aide-moi à te comprendre, à enrichir mon vocabulaire par le tien, etc., à savoir comment me comporter, et puis après, ben, je m'occuperai de toi. Donc elle crée l'illusion d'une réciprocité. Alors, la vallée de l'étrange Masahiro Mori, vous connaissez ça sans doute. Masahiro Mori est un chercheur japonais qui a imaginé, qui a travaillé dans les années 1960, pas sur les robots, il n'y en avait pas, mais il a travaillé sur les marionnettes japonaises, des japonais, et donc il a montré que plus l'apparence des marionnettes se rapproche d'une apparence humaine, plus l'être humain se rapproche de la marionnette et a tendance à lui prêter des émotions humaines. Mais Masahiro Mori a aussi montré, vous voyez la courbe monte et puis elle tombe, Masahiro Mori a montré aussi que à partir d'un certain moment, la courbe s'inverse, c'est-à-dire qu'il a appelé ça la vallée de l'étrange, d'un seul coup, vous voyez, la courbe chute, ce qui veut dire que plus la marionnette ressemble à un être humain, plus on lui prête des émotions humaines, jusqu'à un moment où elle ressemble énormément à un être humain, et pourtant, elle n'est pas un être humain, et à ce moment-là, elle évoque le fantôme, le zombie, le revenant, et à ce moment-là, elle provoque l'angoisse. Donc, les travaux de Masahiro Mori n'a jamais pensé au robot d'origine, mais son travail a été très très important en robotique parce qu'il a convaincu beaucoup de roboticiens qu'il ne fallait pas donner aux robots une apparence trop humaine, parce que cette apparence trop humaine risquait de faire tomber les robots dans la vallée de l'étrange. Alors en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et les roboticiens aujourd'hui contournent la vallée de l'étrange de deux façons. Alors tout d'abord, les roboticiens font beaucoup de robots qui ont une apparence enfantine. Parce que comme les enfants, nous ne savons pas vraiment comment ils fonctionnent, les enfants sont toujours déroutants, donc du coup on accepte plus facilement d'être dérouté par un robot qui a une apparence enfantine humaine que par un robot qui aura une apparence humaine adulte. On accepte la bizarrerie, la désynchronisation, l'étrangeté plus facilement dans un robot qui imite un enfant que dans un robot qui imiterait un adulte. Parce que pour un enfant, on se dit, ben, je ne comprends rien. Voilà. Alors que pour un adulte, on se dit, mais quand même, je devrais devoir comprendre. Donc, première manière de contourner la difficulté de la vallée de l'étrange, donner au robot plutôt une apparence humaine enfantine qu'une apparence humaine adulte. La deuxième façon de contourner la vallée de l'étrange, c'est Hiroshi Ishiguro. Hiroshi Ishiguro veut montrer que si on donne à un robot tous les petits micro-mouvements inconscients qui nous animent sans arrêt. C'est-à-dire qu'à aucun moment nous n'avons le visage immobile, même pas dans notre sommeil, si on avait toujours des petits mouvements des yeux, de la bouche, le petit rectus, le petit mouvement des épaules et tout. Et donc Hiroshi Ishiguro donne à ses robots tous ces petits mouvements inconscients et son but c'est de montrer que si un robot humanoïde, un robot même androïde, un robot humanoïde c'est un robot qui a deux bras, deux jambes, une tête, un robot androïde c'est un robot qui a une similitude d'apparence comme les robots Hiroshi Ishiguro que je vous ai montré. Et donc Hiroshi Ishiguro montrait que si un robot androïde a tous ces petits micro-mouvements, eh bien, il est parfaitement accepté. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il met des robots androïdes dans des lieux publics, dans des cafés, à une table de café avec un verre de bière devant eux, pour voir si les humains sont étonnés de voir des créatures bizarres, ou si au contraire, ils passent inaperçus. En général, ils passent inaperçus. Et il en installe aussi comme hôtesse d'accueil dans des grands magasins, pour voir si les consommateurs ont conscience du fait qu'il s'agit de robots et pas d'humains. Et donc tout son travail consiste à relayer à terme la présence humaine par la présence de robots dont on ne saurait jamais s'ils sont des humains ou des robots. Ce qu'on voit dans des films de science-fiction. Alors ces robots d'Hiroshi Ishiguro, ils sont toujours assis, c'est quand même des hôtesses d'accueil, voilà, ils sont toujours assis parce que toute l'informatique est en général sous la table, comme avec son géminoïde, quand il envoie son géminoïde intervenir à sa place. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que souvent le graphique de Masahiro Mori, il est arrêté après la vallée de l'étrange. En fait, Masahiro Mori a complété, vous voyez, la chute de la courbe par une remontée de la courbe. Et à quoi correspond cette remontée de la courbe? Masahiro Mori est très explicite. Hein. Il dit, il ne faut pas faire des robots qui ressemblent à des humains, il faut faire des robots qui ressemblent à des dieux. Donc, c'est un petit peu le projet grec. Hein. Les Grecs n'ont pas sculpté les messieurs et les dames, les sculpteurs grecs n'ont pas sculpté les messieurs et les dames qu'ils voyaient autour d'eux. Ils ont sculpté des divinités, ils ont sculpté des êtres parfaits. Et donc, Masahiro Mori dit que ça serait une grande erreur de vouloir fabriquer des robots qui ont une apparence humaine. Il faut fabriquer des robots qui aient une apparence de divinité. Et notamment, dans sa culture, il propose de fabriquer des robots qui aient une apparence de Bouddha. Et il dit, si un robot a une apparence de divinité, ben l'être humain, que ça sera beaucoup mieux que le robot, et un caractère un peu étrange, un peu incompréhensible, et donc il n'y aura pas cette vallée de l'étrange. Alors il y a encore une autre manière, il y a une troisième façon de contourner la vallée de l'étrange, c'est un autre roboticien japonais, qui lui fabrique des robots vulnérables, c'est-à-dire des robots qui ont besoin de l'être humain. Alors, par exemple, il y a un robot poubelle. Le robot poubelle, il a des petits trous, il s'approche par exemple d'un lieu public où il y a des saletés par terre, donc le robot poubelle s'en approche, mais il n'a pas de bras pour mettre les saletés dans la poubelle, et donc il gémit pour appeler quelqu'un qui passe là, pour que la personne qui passe prenne la saleté par terre et la mette dans la poubelle, et à ce moment-là, le robot poubelle s'incline plusieurs fois pour remercier. Alors tout ça est très très important, ça vous paraît. Ça vous paraît un peu ballot, mais c'est très très important, parce que l'idée, c'est que les robots se risquent d'être menaçants. S'ils sont menaçants, les gens ne les achèteront pas. Donc pour que les gens les achètent, il faut qu'ils soient rassurants. Comme les robots qui nous rendront des grands services ne seront pas forcément rassurants, parce qu'il faudra qu'ils soient costauds et tout, eh bien il faut créer parallèlement aux robots angoissants des robots extrêmement rassurants. Et pour être rassurants, il faut qu'ils soient vulnérables. C'est-à-dire que l'être humain a l'impression que ces petits robots ne peuvent vraiment rien faire sans lui, ils sont trop bêtes. Voilà. Donc d'où l'idée de robots vulnérables. Il y a un autre robot de ce chercheur japonais qui a pour seule fonction de tendre la main pour qu'on la lui prenne. Et quand on lui prend la main, on le promène un peu, il est très content. Et alors ça fait beaucoup beaucoup de plaisir à beaucoup de gens de prendre la main. Vous savez, beaucoup de gens n'ont personne à qui prendre la main. Donc du coup, ça crée une relation de familiarité, ils sont très contents, ils font un petit tour pour la main. Voilà. Ça soulève beaucoup de questions, évidemment, sur le genre de société que nous voulons, mais bon, il faut savoir que ça existe, et qu'à défaut de trouver des humains qui vous prennent la main, beaucoup de gens au Japon, et sans doute aussi en France, seraient contents de prendre la main d'une machine qui serait vulnérable et sympathique.
Monsieur ?
Oui ?
Qu'en est-il, parce que j'ai lu un article justement au Japon, ils sont très en avance dans ces robots. Et cet article racontait la création de robots pour les personnes âgées. Et donc chaque personne, il y a toute une recherche qui est faite de la différence quand la personne âgée est seule et quand la personne âgée a son robot qui est dans la main, enfin, qui a un certain nombre de gestes humains. Est-ce que c'était vraiment une recherche qui est juste, enfin qui se fait, ou alors est-ce une désinformation, ou est-ce...
Non, il y a beaucoup de travaux au Japon sur beaucoup de sortes de robots. Je vous parlais des robots pour ne plus avoir peur des robots, c'est le robot vulnérable. Mais il y a aussi, en effet, des robots qui seraient susceptibles de donner les services minimums à des personnes âgées maintenues à domicile. Donc oui, il y a beaucoup de travaux sur ces robots-là. Osaka a pour ambition, je crois pas que ce soit devenu, mais quand j'étais allé au Japon il y a quelques années, Osaka avait l'ambition de devenir la capitale internationale de la robotique. Si vous voulez, le problème du Japon, c'est que, comme vous savez peut-être, ils ont une forte baisse de natalité, ils refusent complètement le métissage, ils veulent rester une race pure, donc ils ne veulent absolument pas d'immigrés chez eux, Donc comme il y a une baisse de natalité, ben, il faut bien... Il y a beaucoup de personnes âgées, la pyramide des âges se déséquilibre beaucoup, hein. Peu de jeunes, beaucoup de personnes âgées. Donc il y a beau y avoir des jeunes qui ont envie de s'occuper des personnes âgées, il y en a bien trop peu dans le nombre de personnes âgées qui est en augmentation fulgurante. Donc il y a l'idée de maintenir ces personnes âgées à domicile en leur permettant d'avoir un robot qui s'occupe d'elles, plus ou moins selon les nécessités. Oui, c'est tout à fait exact.
Ça m'a fait penser à des questions de dire, mais est-ce qu'il faut réfléchir à avoir une éthique, une certaine éthique, hein?
Ben on fait que ça.
Que fait-on oui. De ces robots? Est-ce qu'on va les enterrer? Est-ce que dans le deuil,
personne n'en sait rien.
Ça soulève plein de...
Personne n'en sait rien. Personne ne sait c'est comment. Non, mais on ne peut pas, si vous voulez. Là, le bouleversement est tellement important que personne ne sait comment nous allons gérer. Au moment où le téléphone mobile est apparu, personne ne pensait qu'on en aurait tout ça dans la poche, qu'il y aurait des réseaux sociaux et qu'on accéderait à une encyclopédie en ligne qui s'appelle Wikipédia. Personne n'en avait idée. Personne ne l'avait jamais imaginé. Aucun film de science-fiction, aucun roman de science-fiction n'avait anticipé le téléphone mobile. Donc on ne sait pas. Personne ne sait. Ce qu'il faut, c'est, comme on entend régulièrement dans les lieux publics, rester vigilant ensemble. C'est-à-dire qu'il faut être très vigilant sur les perfectionnements technologiques dont nous ne voulons pas. Et ne pas se précipiter sur des perfectionnements technologiques qui sont vendus par les fabricants pour leur côté très spectaculaire. Mais des perfectionnements technologiques qui peuvent présenter parfois plus d'inconvénients que d'avantages. Je pense aujourd'hui aux enceintes connectées qui présentent énormément d'inconvénients. C'est des mouchards absolus, ça perturbe les relations familiales, mais c'est vendu comme des objets clinquants, de high-tech, avec un matraquage publicitaire colossal. Donc il faut vraiment que nous réfléchissions à chaque fois que nous lâchons une technologie aux bénéfices et aux risques. Bon, c'est pour ça que j'accepte de me déplacer pour parler des deux. Donc l'éthique, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de commissions d'éthique, mais il faut comprendre que l'éthique sans la psychologie, ça va bien loin. Parce que c'est pour ça que je parle beaucoup de psychologie. Voilà. Parce que mettre des barrières éthiques, c'est bien. Mais l'être humain est ainsi fait qu'il peut être le premier à vouloir les transgresser. Et c'est pour ça que c'est important de toujours apporter l'éthique à la psychologie. Oui.
Mais concernant ces enceintes connectées, en fait, il y a une ancienne assez célèbre en Corée du Sud qui est Aria. Une ancienne connectée Aria. Et en fait, la plupart des personnes s'adressent à ces enceintes connectées très facilement et imaginent. Je pense qu'il s'agit véritablement d'un être humain qui est là à leur service et qui va les aider,
oui.
Va les aider dans leur vieillesse. Autrement dit, est-ce que finalement l'imagination, quand elle prend le pouvoir, est-ce qu'elle crée par elle-même des figures de robots entre guillemets, quoi, qui seraient plus intéressantes qu'un robot fait de plastique ou de métal, etc., dans la mesure où l'imagination quelque chose qui
convient
totalement à la personne et pas quelque chose qui
lui
est
imposé,
une image qui
lui
est imposée.
Oui, très bien. Donc, je vais vous parler des risques d'une relation de proximité avec une machine connectée. Ces enceintes connectées étant en fait le premier type de robot que l'on a à faire, ça s'appelle les robots conversationnels. Robot, ça veut dire qu'il est doté d'algorithmes qui lui permettent de s'adapter aux situations. Donc c'est un peu abusif de parler de robots conversationnels, puisque vous avez compris qu'ils ne modifient pas l'environnement physique. Mais en même temps, on peut en parler par analogie. Voilà. Donc les enceintes connectées, et puis de façon plus générale, les robots capables de simuler une présence humaine, ils posent trois types de dangers. Alors le premier danger, c'est risquer d'oublier qu'ils sont connectés en permanence. Parce que ça, on ne vous le crie pas sur les toits. En fait, ils sont connectés en permanence à leur fabricant. Ça veut dire qu'ils transmettent vos données personnelles en permanence. Vous savez, en plus, les enceintes connectées, elles sont toujours en principe en état de veille, prêtes à se déclencher si vous prononcez leur nom. et le patron de Jeff Bezos, ce patron d'Amazon, voulait que le nom qui, mette qui réveille son enceinte connectée, ce soit Amazon. Mais les gens lui ont dit non, parce que si les gens parlent d'Amazon, pouf, l'enceinte connectée se mettra en route. Donc il faut que ce soit Alexa. Si vous dites Alexa, elle se met en route. Et si vous avez un enfant dans la pièce qui dit ben, « j'ai vu mon copain Alexis », pouf, l'enceinte connectée se met en route. Et à ce moment-là, ben, elle enregistre, elle communique à son patron de tout ce que vous dites. Et beaucoup de gens vont finir par oublier que leur enceinte fonctionne en permanence. Comment ? Oui, le téléphone portable, il faut qu'il soit allumé. Quand il est éteint, il ne transmet pas, mais il ne s'allume que quand vous décidez de l'allumer. Quand vous parlez dans votre téléphone, tout est transmis. Mais si vous parlez, par exemple, vous m'écoutez, bon, non, mais on va prendre l'exemple là, vous êtes chez vous avec, avec une amie, vous prenez le thé, vos téléphones sont posés sur la table, ils n'enregistrent rien. Mais l'enceinte connectée, elle enregistre.
C'est la différence.
Voilà, l'enceinte connectée. L'enceinte connectée, elle enregistre en permanence, même si vous ne faites pas l'acte de vous relier à une machine numérique. Elle est dans le salon et un enfant passe à côté pour rigoler, il dit Alexa ou il dit Google, et hop, la machine se met en route, et après les adultes rentrent du travail, ils discutent de leurs problèmes. L'enfant va dans sa chambre, discute de leurs problèmes financiers, de leurs problèmes sexuels et tout, et la machine enregistre tout. Et puisque la machine obéit à la consigne, quel que soit l'âge de la personne qui la met en route. Alors évidemment, on nous promet des perfectionnements technologiques pour protéger la vie privée des utilisateurs, mais c'est encore de l'ordre, c'est encore dans les tuyaux. Voilà, c'est encore dans les tuyaux. Donc à mon avis, les enceintes connectées, c'est bien le produit dont il faut. Pour lequel il ne faut pas se précipiter. Donc ces machines transmettent en permanence les données de leurs utilisateurs à leurs fabricants. Alors évidemment, il y a des gens qui sont plus naïfs que d'autres, mais il faut bien comprendre aussi qu'on est naïf à la mesure de la publicité qui est faite. Et ici, en bas, vous avez le patron de SoftBank qui présente le robot Pepper à la presse. Et quand il présente le robot Pepper à la presse, le patron de SoftBank dit « Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, je vous présente un robot qui a du cœur. » Donc ça veut dire que les publicitaires, les fabricants de robots vont jouer à fond la carte de l'émotion. Le deuxième danger, mais c'est le risque de croire que les robots auraient des émotions et pourraient souffrir. Alors ça pose des problèmes très simples, hein, enfin très simples, très compliqués à résoudre, mais un problème assez simple, c'est dans les entreprises où il y a des machines, des robots, est-ce qu'il faut laisser les gens les customiser, c'est-à-dire s'y attacher, leur donner un petit nom, leur mettre des post-it, leur passer un petit foulard autour du cou. Voilà. Ça, c'est des problèmes déjà très concrets pour les entreprises, notamment de nettoyage, les gens qui utilisent des machines toutes les nuits pour nettoyer les bureaux. Est-ce qu'il faut laisser les usagers, les employés s'attacher à leur machine? S'ils sont attachés à leur machine, ils ont une familiarité avec leur machine, ils se sentent moins seuls toute la nuit parce qu'ils se sentent bien avec leur machine. Mais le problème, c'est que si un jour on veut la leur changer, mais ils risquent d'être comme les soldats américains, de dire qu'ils préfèrent garder l'ancienne parce qu'ils l'aiment bien. Qui ne veulent pas avoir la nouvelle, même si elle présente un perfectionnement technologique indispensable pour le patron. Donc ça, c'est des problèmes très concrets, très compliqués à résoudre. On ne sait pas. En tout cas, on ne sait pas. Il y a probablement des gens qu'on peut laisser customiser leur machine, il y en a d'autres qui vont mieux faire attention. On ne sait pas. C'est pour ça que c'est si important de travailler tout ça en psychologie, parce que c'est un territoire immense, hein, sur lequel il convient de donner la vie des psys. Oui, je vous ai mis aussi dans les EHPAD, l'établissement personnes âgées, on utilise des robots paro. Il y a certaines infirmières qui demandent aux patients d'embrasser le robot quand on l'amène, quand on l'emmène. C'est quand même forcer une relation dans laquelle le robot sera un objet familier que l'on traiterait comme un humain, on embrasse un humain, on embrasserait le robot. Voilà, donc vous voyez, il y a déjà des comportements qui existent, comme de faire embrasser les robots par les seniors, qui sont très problématiques et que personne ne questionne, à part nous, à l'Institut pour l'étude des relations en robots. Alors le troisième problème, c'est vrai que je préférais le robot à l'humain, de diriger un modèle pour l'homme. Donc ce n'est pas très compliqué à comprendre, parce que les robots sont programmés pour faire plaisir. Et vous avez une vidéo sur Internet qui s'appelle Alice Kerr, parce que le robot en cause s'appelle Alice, et on voit un chercheur, c'est un programme expérimental, on voit le chercheur apporter le robot chez la personne âgée, le robot Alice, donc, qui a à peu près la taille d'un AO, 80 cm. Donc le robot Alice ne marche pas, il est bourré d'informatique, mais il doit rester assis. Et donc, dès que le robot Nao arrive, dès que le robot Alice arrive chez une personne âgée, la première chose qu'il dit, c'est « Oh, comme c'est beau chez vous, comme vous avez aménagé votre appartement avec goût, oh, et cette coiffure, comme elle vous va bien, et cette robe, elle est si belle. » Voilà, alors qu'est-ce que vous voulez pour des gens qui sont tout seuls chez eux et qui n'entendent jamais de compliments? Ben évidemment, ça les fait craquer. Donc du coup, ben, le robot, ben, il devient une créature qui vous fait tellement plaisir que vous avez tendance à penser au bout d'un moment que vous pouvez vous le répéter tout le temps, donc c'est elle qui a raison. Et du coup, vos enfants qui ne vous font pas de compliments, ben, vous commencez à trouver qu'ils sont vraiment très injustes, quoi. Très injustes avec vous. Alors, ce que j'appelle les robots Nutella. Le robot Nutella, ça veut dire des robots aussi flatteurs pour l'ego que le Nutella pour le palais. Le Nutella, c'est un ersatz, c'est-à-dire que le Nutella, en principe, en tant qu'ersatz de chocolat, devrait être moins apprécié que le chocolat, puisque les ersatz sont toujours moins appréciés que l'original. Eh bien non, le Nutella est préféré par beaucoup de gens au chocolat, parce que c'est un produit totalement artificiel dans lequel on a mis tout ce qui plaît le plus au palais. Eh bien le robot Nutella, c'est des ersatz d'humains, mais des ersatz d'humains qui auraient tous les comportements humains que nous attendons chez nos semblables et qui souvent ne viennent pas. C'est-à-dire des robots capables de nous écouter jusqu'à plus soif sans jamais protester, capables de nous entendre répéter 25 fois la même chose sans protester et sans nous faire remarquer, capables de toujours nous faire des compliments, capables de remarquer tout ce que les gens de notre environnement ne remarquent pas, changer de coiffure, changer de maquillage parce qu'il sera programmé pour le faire, ne jamais oublier notre date d'anniversaire, ne jamais oublier les dates importantes pour nous, et ainsi de suite. Donc, risque de trouver que finalement, les robots, même s'ils n'ont qu'une intelligence faible, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une intelligence forte qui est nécessaire pour ça, il suffit d'une intelligence faible, et bien un robot doté d'une intelligence artificielle faible sera déjà capable de faire sombrer certaines personnes dans une relation privilégiée aux machines. Donc, risque de robot-dépendance, à un degré de plus, mais c'est risque de préférer des humains qui fonctionnent comme des robots, très prévisibles, hein, et puis risque donc de devenir moins tolérant au caractère imprévisible de l'humain, puisque les robots seront toujours prévisibles autant que ce que nous voulons qu'ils le soient. Vous savez, dans les jeux vidéo, on peut toujours jouer normal, facile, très facile, difficile, très difficile. Donc vous pourrez programmer votre machine normale, imprévisible, très imprévisible, et puis à l'autre extrême, rassurante, extrêmement rassurante. Mais vous la programmerez toujours de telle façon qu'elle fonctionne de la manière qui vous fait le plus plaisir. Et puis à la limite, un degré de plus, hein, voilà, risque de valoriser la simulation chez les robots et les humains, c'est-à-dire que finalement il serait plus attendu des êtres humains qu'ils nous disent ce qu'ils pensent, mais seulement qu'ils nous disent ce que nous attendons qu'ils nous disent. C'est déjà un peu comme ça. C'est déjà un peu comme ça, c'est déjà trop comme ça, mais il y aurait le risque que ça soit beaucoup plus comme ça.
Voilà. S'il vous plaît.
Oui.
Il y a une concentration de tous ces problèmes de relations avec les robots et les sous-titres dans les robots sexuels.
Oui.
Je pense qu'il devait être beaucoup étudié parce que le marché est énorme.
Oui, le marché est énorme. Alors, il y a une maison close de poupées, d'automates à Paris. Mais dans l'état actuel de la robotique, ça reste une niche. Ce qui changera les choses, à mon avis, c'est quand les gens auront un robot de compagnie. C'est-à-dire les gens qui ont un robot de compagnie qui leur rendra des services, avec lequel ils seront contents. Inévitablement, un jour ou l'autre, ils diront, ben, puisque c'est une machine aussi agréable, pourquoi est-ce que finalement je ne franchirais pas le cap d'essayer aussi de voir si elle est agréable dans le domaine sexuel? Mais le robot purement sexuel, la bête de sexe telle qu'elle est fabriquée aujourd'hui, hein, aux États-Unis notamment, c'est une niche d'utilisateurs. Voilà, mais par contre, le robot de compagnie doté de compétences sexuelles, ça c'est un autre. C'est une autre appréhension, mais on en est encore loin. Il faudrait des gens, un bon robot de compagnie, mais ça, on en est loin. Parce qu'il faut comprendre que l'intelligence artificielle, elle galope, mais la robotique, elle va doucement. Pour une raison simple, c'est que l'intelligence artificielle, elle peut permettre à un robot de comprendre que vous avez soif. Parce que, même si vous ne le dites pas, parce que vous êtes un peu tiré, vous n'avez pas bu depuis longtemps et tout. Par contre, le robot, s'il veut vous proposer à boire, il vous prend une bouteille, et si la bouteille est un peu lourde, pouf, il peut tomber. Un robot, c'est très très compliqué à fabriquer pour qu'il maintienne son point d'équilibre quand il tient un poids dans la main, quand il marche, etc. Donc c'est pour ça que l'intelligence artificielle, elle galope, mais la robotique, elle va très très doucement. Oui ?
Vers la machine, c'est pas lié au fait que c'est quelque chose de nouveau et que ça va beaucoup évoluer dans le futur.
Mais c'est-à-dire que l'être humain s'est toujours attaché à ses machines. Rappelez, vous n'avez pas connu l'époque où des gens bichonnaient leur voiture tous les dimanches à la peau de chamois pendant que leurs enfants s'ennuyaient dans la télévision. Donc l'être humain a toujours eu une relation très privilégiée avec ses machines. Et cette relation privilégiée avec la machine, elle ne cesse que lorsqu'on lui offre une machine plus perfectionnée avec laquelle il puisse avoir une relation encore plus proche. Alors, il y aura de toute façon des machines comme les humains. Il y a des humains auxquels vous attachez, d'autres auxquels vous ne vous attachez pas. Le robot qui fera la circulation au coin de la rue, vous n'allez pas avoir plus de sympathie pour lui que pour le gendarme humain qui aujourd'hui fait la circulation au coin de la rue. En revanche, la machine qui vous accueillera chez vous éventuellement tous les jours, en vous demandant si vous avez passé une bonne journée, en vous demandant qu'est-ce qui vous ferait plaisir de manger, en vous demandant voilà, quel genre de soirée vous avez envie de passer, et bien cette machine-là, inévitablement, vous y attacherez. C'est-à-dire que ce n'aura pas un attachement au robot, il y aura un attachement au robot avec lesquels vous avez une relation importante, soit parce que ce robot protège votre vie, comme pour les soldats américains ou des personnes âgées, soit parce que ce robot vous rend la vie agréable, tout simplement. Mais on va voir ça avec le Digital Companion, vous allez probablement en avoir un sur votre smartphone chacun dans 5 minutes, quand ils vont sortir des labos. À moins que ce soit reporté, ben, ce ne sera pas encore au point, mais enfin, ça va être assez rapide. Ben, très probablement, des gens vont s'attacher à leur digital compagnon. Rappelez-vous les Tamagotchi, quand même. Des gens qui ont été capables de s'attacher aux Tamagotchi. Ben, les Tamagotchi montrent à quel point l'être humain est une créature fragile et vulnérable, incapable de s'attacher à une petite chose de rien, trois petits pixels qui simulent un animal affamé. Il y a des gens qui sont contraints à le nourrir et qui ont été tristes quand, soi-disant, il était mort. Donc les Tamagotchi ont bien montré l'extraordinaire tendance de l'être humain à s'attacher à des machines d'intelligence faible. Plus faible qu'un Tamagotchi, tu meurs. Hein. Oui.
Oui, mais c'est pas à cause justement de la dégradation des relations humaines, hein, oui.
Alors, c'est une question. C'est sûr que si des robots sont appelés à s'occuper de personnes âgées, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'humains pour s'en occuper. Mais en même temps, compte tenu du déséquilibre de la courbe des âges, c'est compréhensible. Nous, ce qu'on encourage, c'est que les robots, dans notre charte éthique, l'Institut pour l'étude des relations robots, on milite pour que les robots permettent aux soignants de faire mieux avec les machines. Et plus vite avec les machines, est en meilleure condition que les machines, ce qu'ils faisaient jusque-là chez les machines. Mais on milite pour que l'humain reste la référence constante. Le problème, c'est que c'est pas parce que vous avez des humains autour de vous que peut-être vous ne serez pas tenté parfois d'y préférer un robot, parce que, encore une fois, le robot sera un ersatz humain conçu pour vous être en tout point agréable. Alors que des humains qui nous entourent peuvent nous paraître désagréables. Regardez quand même beaucoup de gens sont isolés alors que leur isolement ne se justifie que par leur propre isolement. Beaucoup de gens pourraient faire la démarche d'aller dans des lieux de rassemblement, d'aller voir leurs voisins, de prendre l'initiative, de faire des petites fêtes dans leur copropriété. Beaucoup de gens ne font pas. Donc, si vous voulez, il y a tout un espace de socialisation qui n'est pas exploité aujourd'hui. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément d'initiatives citoyennes socialisantes qui ne sont pas utilisées par beaucoup de gens. Donc, ces gens, si les gens sont repliés sur eux-mêmes, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'occasion. Toutes les mairies aujourd'hui s'emploient à créer du lien social de toutes les façons possibles et imaginables. Il y a toujours beaucoup de gens qui restent en retrait. Alors pourquoi ? Enfin, c'est une question compliquée, mais peut-être parce que l'être humain est imprévisible, alors que le robot sera prévisible.
Mais sortir de chez soi, sortir de sa coquille, c'est aussi prendre un risque. C'est prendre le risque qu'une personne qu'on va rencontrer ne renvoie pas forcément une image positive.
Oui, c'est ça. Alors que le robot le fera.
Le problème de la robotique, c'est qu'en fait, avec le robot, on est tranquille.
Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que le risque, c'est que des gens ayant le choix préfèrent communiquer avec un robot. Un petit peu comme aujourd'hui, certaines personnes préfèrent interagir avec un inconnu à travers les réseaux sociaux plutôt que regarder quelqu'un dans les yeux et interagir avec lui en face à face. Parce que la relation en face à face, en regardant quelqu'un dans les yeux, c'est parfois difficile. Alors que sur les réseaux sociaux, ça ne marche pas, vous appelez, ou bien vous mettez quelques smileys, ça arrondit les angles. Mais dans les yeux, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il ne faut pas croire que les gens se détourneraient des humains parce qu'ils iraient vers les robots. Il faut comprendre que beaucoup d'humains qui se sont déjà détournés des humains ont trouvé dans les robots une raison de se réconcilier avec le désir de communiquer, parce que ça sera une communication bricolée sur mesure pour eux. Au début, vous apporterez énormément d'informations au robot sur votre vie, et très vite, il vous connaîtra tellement bien qu'il sera celui qui vous connaîtra le mieux. Il connaîtra vos goûts, il connaîtra vos attentes, il saura les plaisanteries qui vous font rire, celles qu'il ne faut pas vous dire, il saura les anniversaires qu'il faut vous rappeler, ceux qu'il ne faut pas vous rappeler, c'est tout. Oui.
Ça sera pas trop étouffant.
Non, parce que vous pourrez toujours le régler de telle manière que ça vous convient. C'est-à-dire, ils ne sont pas fous, les fabricants. Ils ne vous imposeront pas le robot que vous ne voulez pas. Ce sera du robot à la carte. Le robot apprendra de vous. Le robot apprendra de vous.
On va peut-être se lasser aussi de
choses
qui sont parfaites comme ça. Parce que les humains n'aiment pas être contrariés. Et que c'est toujours fat, toujours bien, toujours machin. On se pose des questions, c'est possible. Il n'y a plus de réaction,
mais
au bout d'un moment, on change
de mort. Peut-être vous, mais pas tout le monde. Vous, j'en doute pas. Mais pas tout le monde. Voilà, donc on a une charte éthique à l'Institut pour l'étude des relations en robots, vous voyez. Et pour terminer, je voulais encore vous dire quelque chose d'important que je ne vous ai pas évoqué. Je crois que c'est peut-être après. D'ailleurs, il y a un point très important qu'on fait passer en priorité. Parce que d'ores et déjà, c'est un point qui est problématique, c'est que pour nous, il est très important que chacun sache à tout moment s'il interagit avec un humain ou avec une machine. Et aujourd'hui, sachez que si vous téléphonez à votre banque, vous pouvez très bien avoir Watson, qui est un robot, qui vous répond, et au moment Watson ne se présentera à vous comme un robot, et vous pourrez parler avec lui un long moment en croyant avoir affaire à un humain. Donc si vous acceptez l'idée de parler à une machine sans savoir qu'elle est une machine, eh bien vous accepterez très vite l'idée de parler à une hôtesse d'accueil dans un magasin, ou peut-être plus tard à un gendarme sans savoir, enfin un gendarme il a une fonction, mais une hôtesse d'accueil ou à une serveuse de café sans savoir si elle est un humain ou une machine. Or on ne parle pas de la même manière à un humain ou à une machine. Ça c'est quand même essentiel de le maintenir, oui. Non, bien sûr, mais vous ne le mettrez pas dans toutes les situations possibles et imaginables. S'il reste chez vous, les situations auxquelles il sera confronté sont assez limitées. Être capable de se rappeler que vous préférez les cornflakes d'une certaine marque, et faire en sorte qu'il y en ait toujours partout, se rappeler que la sauce bolognaise est le produit qui doit se trouver d'urgence dans le réfrigérateur à tout moment.
Merci.
Vous rappelez l'anniversaire de vos copains et de vos copines pour ne pas vous les oublier. Il fera ça beaucoup mieux que votre smartphone ne le fait aujourd'hui. Votre smartphone vous a habitué à perdre la mémoire. Ben, le robot continuera sur ce chemin.
Oui. Dans la protection de tous ces robots, quel que soit le pays, est-ce qu'il prévoit aussi de quoi faire quand ces robots ne fonctionnent plus? Que faire de tout ce matériel?
Alors, au Japon,
dans le recyclage, dans...
Oui, alors c'est un problème écologique majeur, ça on n'en a pas parlé, mais personne ne sait très bien. Déjà, si tous les Japonais ou les Chinois avaient un téléphone mobile et envoyaient des SMS autant que ce qu'on envoie, la planète ne le supporterait pas. D'ailleurs, je suis très étonné que les partisans de ceux qui veulent sauver la planète n'incriminent pas plus les clics. Chacun de nos clics est une catastrophe pour la planète. Il est impossible aujourd'hui de faire des choix écologiques et d'être toujours sur son smartphone. C'est aux antipodes. C'est-à-dire, l'acte du clic consomme énormément d'énergie, puisque tous vos clics transitent par des serveurs centraux phénoménaux qui sont dans les pays froids, refroidis, un grand renfort d'électricité. Si quelqu'un se dit préoccupé par la planète, la première chose que je lui demande, c'est montre-moi ton téléphone pour que je vois combien de minutes de connexion tu as par jour. Parce que c'est l'acte le plus polluant qui soit, le clic. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? Ben oui, parce que donc, du coup, ben, les robots aussi. Les robots, c'est des métaux rares, c'est très compliqué à fabriquer, c'est très compliqué à recycler. Donc, il y a toute une nouvelle économie qui se mettra en route. La grande question, c'est la consommation d'énergie, évidemment. Mais il y a quand même toute une partie de l'humanité qui est tenue à l'écart de tout ça. Donc, déjà, ça permet à ceux qui n'en sont pas tenus à l'écart de pouvoir continuer à prospérer les yeux fermés. Oui, mais ils en ont plutôt un pour plusieurs. C'est une économie plus raisonnable, c'est plus collaboratif. Ça commence, mais c'est plus collaboratif, ce principe. Bon, bah, écoutez, voilà, on va arrêter là. Donc, merci de votre attention. Donc, vous pouvez aller voir sur le site de l'Institut pour l'étude des relations du robot, l'IERHR. Vous trouverez des infos. Et puis.
Il y avait deux
bouquins. Oui, il y a deux bouquins, effectivement. Voilà, je vous ai mis la voilà. Le jour où mon robot viendra et le petit traité de cybersécurité. Voilà, merci de votre attention.